Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'en ai pas marre de parler que de jeux vidéo.
C'est vrai, tu veux parler d'autre chose?
Moi, attends, franchement, Patrick, je t'ai pas relancé parce que l'émission était déjà longue, mais sur le DVD, oh, bah, je pourrais en parler des heures aussi. Moi.
Le DVD, lequel?
L'émission.
Ah non, mais
le DVD en général, avec ses boîtes en carton au début.
Ah, mais je pourrais en parler des heures parce que, oui, en 20 ans, on l'a vu passer d'un objet de cinéphile
à
un truc bon, bah, qui n'a plus de valeur, qui est même conspué presque aujourd'hui.
Mais c'était fascinant. J'ai des souvenirs de films qui sont liés vraiment enfin, au DVD spécifiquement. Enfin, je me souviens de Volte-Face où t'avais. Le moment où il s'échappe de la, où Nicolas Cage s'échappe de la prison de haute sécurité, c'est le moment où il fallait changer le disque ou le retourner ou un truc comme ça.
Ah oui, les trucs en double face,
avec
machin.
Avec un suspense qui ne s'arrête jamais, qui te poursuit jusque dans ton salon. Ah, c'était trop bien.
Un DVD double face aussi?
Ouais, pour Volte-Face.
Volte-Face, incroyable!
Mais bon, après, c'était pour plein de jeux.
Ouais, puis t'avais les bonus qui arrivaient, tu vois, les making-of.
Les bonus, c'était bien. T'avais des trucs drôles.
Enfin, c'était incroyable.
Tu pouvais même enregistrer tes propres commentaires audio sur Spider-Man 2. Et on avait fait une blague à ma sœur où en fait, elle découvrait le film pour la première fois. Et elle savait pas qu'en fait, il y avait le commentaire audio de moi et mon frère qui surgissait où on faisait des voix à la con. Mais genre après une heure de film, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ce porte?
Ah, je savais pas, ça faut que je regarde ma version.
La version commentée de Sam Raimi.
Et il fallait trouver des bons loueurs de DVD. Moi, je me rappelle quand j'ai emménagé à Belleville, j'avais trouvé un loueur à Goncourt qui était juste incroyable, incroyable. Il avait ses rayons et puis il avait des classeurs. Tout n'était pas disponible, il n'y avait pas assez de rayons, donc il avait les classeurs, il avait plein de classiques et tout ça. C'était, il fallait avoir un bon loueur de DVD.
Hein. T'as toujours le Vidéo Club, hein, à Goncourt, qui est chez Combini, dans les petits.
Oui. Ah, c'est celui-là.
Ah, c'est celui-là, en fait.
Est-ce que c'est lui?
Parce qu'il est toujours là.
C'est JM Vidéo, toujours debout, c'est le dernier.
En fait, quand je suis arrivé à Belleville, j'ai trouvé celui-là et j'ai été abonné pendant 10 ans à ce Vidéo Club.
Mais il est toujours là, et je crois que c'est le dernier.
Ah bah, ça me fait plaisir. Écoutez, c'est un bon début de bande-annonce. Je viens d'apprendre que mon Vidéo Club historique est toujours vivant. Ah bah, c'est celui-là, les vidéos de Combini.
Je pense, ouais, tu me dis Goncourt, moi je
pense. C'était le vidéo. Oui, c'était Goncourt, ouais.
Et Combini, c'est exceptionnel. Chaque fois, où ils prennent un acteur, un réalisateur, et puis ils le laissent déambuler comme ça.
Ah bah, ils ont dû changer l'aménagement parce que c'était pas aménagé exactement pareil.
C'est complètement copié-collé sur un truc de Criterion, justement. C'est Criterion qui faisait ça au départ.
Oui,
c'est vrai, j'avais vu ça, effectivement. C'est Criterion qui produisait, effectivement, la mise en situation comme ça. Et c'est Criterion, ils avaient des très belles éditions. C'était vraiment les trucs avec les bonus ultra renseignés pour les cinéphiles. C'était vraiment une très belle collection, les Criterion.
Ouais, mais déjà t'as la distinction des gens qui se débrouillaient pour dézonner l'appareil.
Il fallait. Fin 90, début 2000, quand tu payais ta platine 1000€ ou je sais pas combien, enfin c'était hors de prix, c'était vraiment inaccessible. Avant la PS2, parce que la PS2
PlayStation et Xbox qui ont démocratisé le DVD, hein.
Qui ont complètement permis évidemment, mais avant c'était vraiment un marché de cinéphiles avec des films qui étaient vendus très cher aussi. C'est-à-dire quand t'achetais un film, tu réfléchissais, tu prenais les classiques, tu prenais les films de la Hammer, Robocop, voilà, les intouchables, quoi. Et le reste.
Est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'une question pour cette bande-annonce? Moi, je vous pose. Allez, on est obligé, parce qu'il faut un titre à la bande-annonce, donc ça va être celui-là. La question.
Quel est votre DVD préféré?
La question est toujours de Pof Dégâts qui avait sorti une série de questions, mais là, on était obligé de la faire à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on a reculé l'inévitable jusqu'ici? Je ne sais pas. Mais la question est celle-là. Quel est le meilleur point and click? Attention. On plonge dans un abîme de perplexité. Oui.
Alors le meilleur,
attention Patrick, c'est une réponse qui t'engage pour l'avenir. Hein.
Alors ouais, la question, c'est quel est le meilleur point and click,
ouais,
et la réponse est forcément subjective. Donc après, ouais, tu réinterprètes la question comme tu veux. Ouais. Bah on va commencer avec toi. Il faut commencer avec toi, Patrick.
C'est difficile. Alors, comme ça d'instinct, j'aurais dit Maniac Mansion. Voilà. Mais okay. mais en fait, je vais vous dire un truc très subjectif.
Bah.
Moi, c'est l'époque où je découvrais donc sur mon Amiga les Lucasfilm Games, c'est des jeux que je scrutais dans la presse. Et puis quand j'ai pu avoir un Amiga, j'ai avalé ces jeux-là avec un bonheur incroyable. Maniac Mansion, c'était mon premier que j'ai acheté avec mon Amiga. Mais je garde vraiment un attachement très particulier à Indiana Jones et la Dernière Croisade, qui est pas le meilleur. Hein. C'est pas le meilleur point and click du tout de LucasArts. Mm. Mais il y avait un truc absolument vertigineux d'avoir un point and click qui sortait en même temps que un des meilleurs films de la saga et d'avoir une écriture en parallèle et presque du cross-média mais avant l'heure, enfin c'est-à-dire que on avait des scènes plus longues dans le jeu d'aventure qui permettaient d'avoir donc accès, et on le sait maintenant, à des scripts de chez Lucasfilm qui n'avaient pas été utilisés dans le tournage mais que les gars de LucasArts avaient récupéré et eux ont bossé sur des séquences comme ça. Et à l'époque, il y avait un côté incroyable de se dire, ça y est, le point and click permet d'avoir une expérience de film augmentée avec des séquences en plus. Et cette impression de déambuler, en fait, dans le film en version interactive.
Ouais.
Il y avait ce côté, en plus, de bascule. Est-ce que je peux aller voir le film en premier? Comme ça, j'aurai des infos que je vais utiliser après dans mon expérience de point and click. Ou à l'inverse, je vais faire le point and click et je vais pouvoir rouler des mécaniques en allant au cinéma en connaissant certaines infos du film. C'était incroyable et on n'a jamais vraiment retrouvé ça non plus. Moi, je pensais que ça deviendrait une sorte de truc régulier. Bah, tous les grands films auront un point and click. Bah, non, ça s'est pas passé comme ça à l'avenir.
Pas
mais
tout
à l'époque,
à fait.
On pouvait imaginer ça. Non, c'est un point vraiment un peu de juxtaposition à ce moment-là chez Lucasfilm où un point and click arrive au moment de la sortie d'un film absolument majeur. C'est un des meilleurs films de la saga. Et c'est vertigineux parce qu'effectivement, quand tu refais ce jeu, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même un titre où bah, Ron Gilbert, tous les cadors de LucasArts ont bossé dessus en temps un peu compressé, mais ont pu s'amuser avec le script du film. Et c'est un jeu vertigineux dans le côté réinterprétation des séquences du film, augmentation des énigmes. Je pense à la librairie à Venise, par exemple, qui se passe un petit peu différemment. On passe plus de temps dedans. Et c'est génial. Enfin, cette distorsion entre le temps cinéma et le temps point and click jeu vidéo, c'est fascinant. C'est un jeu que j'adore et qui m'avait absolument bouleversé à l'époque et que j'avais eu en bundle avec Zach McCracken, qui est aussi un jeu que j'adore parce qu'il est fou. Zach McCracken, c'est un jeu de fou de chez LucasArts. Mais on pourrait tous les citer, les Lucas. Mais allez, voilà, je retiens.
On va en citer peut-être d'autres. C'est pas impossible, Julie.
Voilà, je reste sur Indie 3.
Bah oui, mais c'est forcément. Bah, y a quand même ce petit sentiment de panique qu'on a tous eu quand tu nous as posé la question, où on passe en revue tous les points techniques qu'on a adorés. Mais ouais, non, moi je vais en venir vraiment à mon
Vertigo,
amour originel.
C'est Vertigo, non?
Ah ouais, c'est Vertigo. Moi, j'imagine. Moi, c'est Day of the Tentacle, enfin, parce que. Au-delà du monument qu'est ce jeu, de l'influence qu'il a eu sur le jeu vidéo, le jeu d'aventure dans son ensemble, c'est un attachement, mais vraiment très enfantin que j'ai à ce jeu, parce que je l'ai découvert vraiment gamine, alors que mon frère y jouait, et vraiment les let's play à l'ancienne, en fait, où tu. Mm. Moi, j'avais pas le droit de jouer parce que je pouvais pas trop comprendre, mais je le regardais, je lui disais, clique sur cette tête de cheval! Et c'était. Et c'est. C'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de le refaire à plusieurs reprises depuis, mais en tout cas, j'avais le sentiment déjà à l'époque que ce jeu pouvait me parler, quand bien même j'étais une gamine et que les énigmes étaient complètement tarabiscotées. Enfin, c'est toujours ce même humour, enfin, c'est toujours ce côté un peu insouciant, enfin, qui marche hyper bien, et c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, pour toujours, quoi. Enfin, c'est... Donc voilà.
Le jeu que le temps, les différentes temporalités, c'est... Enfin, les énigmes
à
travers le temps, c'est incroyable.
Ah bah
c'est
le moment où Gilbert s'est dit, on pourrait faire un truc sur le voyage dans le temps, alors que c'était pas encore un truc complètement éculé avec des boucles temporelles, c'était génial. Et
Tim Schafer aussi,
Et
Tim Schafer qui gagne vraiment ses galons de et Grossman, ouais, c'est vrai que c'est un jeu incroyable.
Marius,
ce saboteur de Patrick devait prendre Maniac Mansion, du coup je l'avais lâché.
Du coup, je te laisse.
Mais en vrai,
ma vraie réponse, c'était Maniac Mansion, parce que c'était c'est un de mes premiers jeux vidéo, c'est très clairement mon premier point and click, que c'était un contact différent du jeu vidéo, de ce que j'en avais vu avant. Pour la première fois, il y avait une dimension cinématographique, il y avait des blagues, il y avait des trucs dégueux, il y avait un frigo dégueu. Parce que c'est un jeu qui m'a appris des rudiments d'anglais, push, pull, give. Pendant longtemps, je pensais que c'était give.
Ah oui.
Et que même si j'ai dû, en vrai, y jouer l'équivalent d'une demi-heure pour un adulte normal, dans l'avancement de du truc, moi, je butais sur tout. Tout était compliqué. L'anglais était compliqué. L'idée de récupérer des clés pour ouvrir des machins, tout ça me semblait horriblement compliqué. Parce que je devais avoir, je sais pas, 8-10 ans, quoi, c'était sur Apple II. Mais c'est une immense baffe. Et puis du coup, j'avais préparé une porte de secours pour ne pas avoir à dire Maniac Mansion. Et je voulais faire un truc plus moderne, on va dire, en prenant Gone Home, parce que c'est pas un point and click tel qu'on l'imagine quand on cite la rubrique, mais quand on l'a fini et qu'on y repense, on se dit, mais en fait, c'était juste un point and click, c'était comme avant, mais en FPS, et que ça raconte des histoires différemment, et que c'était un grand jeu aussi. Reprenant des vieilles mécaniques, mais sous une autre forme.
Bah pour ma part, je vais pas citer de LucasArts. Alors, je les ai tous faits à l'époque, sauf Maniac Mansion. C'est vraiment... je suis arrivé à LucasArts vraiment... après, je suis arrivé à le premier Monkey Island, et puis après, ça a déroulé, et je faisais tout ce qui sortait, sauf peut-être le premier Sam & Max, que j'ai pas fait au moment de la sortie. Mais à part celui-là, jusqu'à Full Throttle, je crois que le Full Throttle, c'était un des derniers, non? Ou il y en a eu un?
Oui, de la dernière vague, on va dire. Oui.
Voilà. Je les aime d'amour, et il y a aucun problème. Mais j'ai envie de citer celui qui arrive plus tard. Il arrive en 2003, me semble-t-il, à un moment où, en fait... il y avait encore des point and click qui sortaient, mais c'était un peu laborieux, hein, on va dire. Hein. C'était
Runaway aussi. Runaway, c'était un peu la relance.
Ouais. Bah Pendulo qui a un peu dérivé. On va en reparler de Pendulo d'ailleurs. On va en reparler de Pendulo. C'est vrai. Mais là, il arrive Siberia. Donc Siberia de Sokal. Sokal qui avait déjà fait la mer zone, mais bon, la mer zone n'était pas honteux du tout, mais il avait au moment où il lance Siberia, il a quand même sa double casquette, auteur de BD, auteur de jeux vidéo. Siberia arrive et c'est... Moi, ça a été vraiment une claque parce que ça reprenait le système des point and click. C'est un vrai point and click avec des tableaux dans lesquels on se balade, etc. Mais il y a un ton... alors, il y a de l'humour quand même qui infuse. Je sais pas, il y a quelque chose... Ça montre autre chose, de l'exploration, une quête initiatique, un peu de mélancolie qui parcourt Siberia. Je sais pas, le point and click transmet d'autres choses et j'avais vraiment adoré. Et j'avais autant aimé Siberia que j'ai détesté ses suites. Ça reste pour moi un jeu à cette époque-là qui m'avait vraiment marqué. Et vous, quel est le meilleur point and click? C'est ça la question. Vous pouvez répondre sur le serveur Discord de Séance en Joue ou sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence en Joue. Ciao.
Coucou. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.